Des jours, des semaines passèrent. Sous voilure réduite, le Pequod d'Ivoire avait lentement traversé quatre parages de croisières différents. Celui des Açores, celui du Cap Vert, celui situé au large de l'embouchure du Rio de la Plata, et celui du lieu-dit de Carol, étendu de mer mal délimitée au sud de Sainte-Hélène. Ce fut tandis que nous glissions sur ces dernières eaux par une nuit sereine baignée de clair de lune, qu'un souffle argenté fut aperçu bien au-delà de la blanche écume de l'étrave. La lumière de la lune le faisait paraître céleste. On eût dit, sortant des flots, quelque dieu étincelant paré de plumes. Fedala fut le premier à le signaler. C'était son habitude par ses nuits lunaires de monter au grand mât et d'y guetter avec autant de précision qu'en plein jour. Pourtant, bien que des gammes de baleines soient parfois aperçues de nuit, il ne se trouvait pas un baleinier sur 100 pour s'aventurer alors à mettre les embarcations à la mer. Vous imaginez dès lors avec quelle émotion les matelots voyaient ce vieil oriental perché si haut, à des heures aussi étranges, le ciel mariant son turban à la lune. Mais lorsqu'il eut passé plusieurs nuits de suite dans la mâture, sans proférer le moindre son, lorsqu'après tant de silence, sa voix surnaturelle retentit, alors chaque homme bondit sur ses pieds. Leur frisson n'aurait pas été plus grand si la trompette du jugement avait retenti. Pourtant, ils n'éprouvèrent aucune terreur, et au contraire un certain plaisir, car bien que l'heure fût malvenue, le cri était si solennel, si délirant, si émouvant que chaque âme à bord eut le désir instinctif de mettre les pirogues à la mer. Traversant le pont à enjambées rapides et obliques, Akab donna l'ordre de déployer les perroquets et les cacatois, ainsi que toutes les bonnettes. L'homme le plus qualifié dut prendre la barre. Les trois postes de vigie furent parés. Et le navire, sous toute sa voile, courut vent arrière. You're to look for the white whale. A whale as white, as big as a mountain of snow. Si vous aviez pu observer le visage d'Akab cette nuit-là, vous auriez pensé qu'en lui, deux influences antagonistes se livraient combat. Tandis que sa jambe vivante faisait résonner des échos sur le pont, chaque coup de sa jambe morte sonnait comme un choc sur un cercueil. C'est sur la vie et sur la mort que marchait ce vieil homme.
Mais bien que le navire eût filé à vive allure, bien que les regards avides eussent lancé toutes leurs flèches sur la mer, le souffle d'argent ne devait pas être revu cette nuit-là. Ce souffle de minuit était presque oublié lorsque quelques jours plus tard, à la même heure silencieuse, il fut à nouveau annoncé. Mais lorsqu'on mit le cap sur lui, il disparut encore, comme s'il n'avait jamais existé. Il en alla ainsi nuit après nuit, jusqu'à ce que chacun n'y prêtât plus attention, sinon pour s'en étonner. Jaillissant mystérieusement, soit à la clarté de la lune, soit à celle des étoiles, disparaissant pendant un jour ou deux, ou trois, et paraissant chaque fois surgir à une plus grande distance, ce souffle solitaire semblait vouloir nous entraîner à jamais plus avant. Soumis à la superstition immémoriale de leur race et influencés par l'atmosphère de surnaturel qui enveloppait le Pequod, il y eut plus d'un marin pour jurer que chaque fois et en chaque lieu où il avait été aperçu, ce souffle inaccessible était la respiration d'une seule et même baleine et qu'elle avait pour nom Moby Dick. Pendant un certain temps, régna aussi un sentiment de singulière terreur à l'égard de cette apparition fugitive, comme si elle nous invitait traîtreusement à la suivre toujours plus loin, afin que le monstre pût faire volte-face et nous déchiqueter enfin dans des mers écartées et sauvages. Ces appréhensions passagères, si vagues mais si effrayantes, gagnaient en puissance par leur contraste avec la sérénité du temps. Certains découvraient sous son azur caressant un maléfice satanique, tandis que nous voguions, jour après jour, sur des mers solitaires d'une douceur obsédante. Comme si l'espace, réprouvant notre quête vengeresse, se vidait de toute vie devant l'urne funéraire de notre proue. Mais quand enfin nous fîmes route vers l'est, les vents du cap commencèrent à hurler autour de nous. Et ces eaux tourmentées nous soulevèrent et nous abaissèrent longuement. Alors, quand le Pequod poignarda le vent de ses défenses d'ivoire et dans sa folie éventra les vagues sombres, alors s'évanouit la désolation vide de la vie, mais pour faire place seulement à de plus lugubres spectacles. Près de l'étrave surgissaient ici et là des formes étranges, tandis que nous suivaient des vols serrés d'impénétrables cormorans. Chaque matin, ils se perchaient en rang sur les étais et se cramponnaient au filin longuement, obstinément, en dépit de nos huées, comme s'ils prenaient notre navire pour une épave abandonnée, à la dérive, vouée à la désolation. Et le sombre océan se soulevait, respirait, se soulevait encore dans une incessante angoisse, comme si l'âme du monde y exprimait le remords torturant d'avoir engendré de si longues souffrances et de si lourds péchés. Longuement séduits par les silences perfides qui nous avaient entourés, nous nous trouvions jetés dans la tourmente, où les âmes coupables, transformées en oiseaux et en poissons, semblaient condamnées à nager éternellement sans espoir d'un havre, ou à brasser de leurs ailes un air ténébreux dépourvu d'horizon. Cependant, paisible et invariable dans sa blancheur de neige, dirigeant toujours vers les cieux sa fontaine de plumes, le souffle solitaire continuait à apparaître par moments, nous faisant toujours signe de le suivre.